Des sous et des hommes. Une émission de Pascal Fourier. Et notre invité aujourd'hui,
Jacques Cossard, économiste spécialisé en développement qui a travaillé pendant de nombreuses années dans les institutions internationales comme la Banque mondiale et l'Instrument français de la coopération, l'Agence française de développement.
Alors, cette semaine, mais aussi la semaine prochaine, on est parti pour un gros morceau. Ça tourne autour de l'idée du libre-échange. Alors, le libre-échange, visiblement, c'est ce que prône l'OMC notamment. Puis, tout récemment, on a vu qu'il y avait disons que les États-Unis cherchaient à faire une zone de libre-échange avec les pays d'Amérique du Sud. Mais j'arrive pas trop bien à comprendre exactement qu'est-ce que c'est le libre-échange et puis pourquoi on pourrait le prôner.
Alors, le libre-échange, c'est tout à fait attractif pour le citoyen moyen pour plusieurs raisons. La première, c'est que dans libre-échange, il y a libre et qu'il est difficile de s'opposer ouvertement à la liberté, de ce que serait la liberté. Et deuxièmement, parce que l'échange, ça fait partie aussi c'est une valeur positive. Il est intéressant d'échanger, et échanger avec l'ensemble du monde, c'est souvent considéré comme une valeur supplémentaire. De fait, d'ailleurs, on peut considérer que les échanges, s'ils étaient égaux, mais on va y revenir, pourraient être une valeur positive. Alors, pourquoi le libre-échange est une sorte de tromperie sur la marchandise? C'est parce que il n'existe pas, il n'a jamais existé. Le libre-échange, c'est une théorie économique plus ou moins inventée par un économiste Ricardo qui disait qu'à partir de cette remarque à son époque au 19e siècle, il remarquait que les nations avaient des avantages et des accès aux marchés différenciés. Il parlait d'avantages comparatifs et il livrait son fameux exemple du drap anglais et du vin portugais, montrant que l'un et l'autre avaient l'avantage de se spécialiser là-dedans et que tout le monde y trouvait avantage. Alors, ça n'existe pas pour plusieurs, et ça n'a jamais existé pour plusieurs raisons et pour avec plusieurs exemples. Ça n'a jamais existé parce que le développement de tous les pays du Nord, c'est-à-dire les pays industrialisés, a toujours été fait dans l'histoire, que ce soit les États-Unis, que ce soit les pays d'Europe, en particulier ceux aujourd'hui de l'Union européenne, que ce soit le Japon, derrière des protections, que ce soit des protections brutales, un peu frustes, telles des barrières douanières, ou des protections un peu plus sophistiquées, comme on en a encore de nombreuses aujourd'hui, derrière des subventions. Et pourquoi ces pays ont-ils mis en place des protections, souvent pour de bonnes raisons, et des raisons profitables aux peuples de ces pays considérés, c'est que les luttes sociales exigeaient qu'il faille des fonds publics pour protéger des secteurs entiers. Par exemple, le Japon a, pendant des décennies entières, et encore en partie aujourd'hui, dit nous mangeons du riz, nous en mangeons beaucoup, et bien pour des raisons sociales, pour des raisons de cohérence générale, y compris politique, ce sont nos riziculteurs japonais qui produiront du riz. Comme ils le produisent dans un système qui aboutit à des prix inférieurs à ce que peuvent produire d'autres, eh bien nous subventionnerons. Et ce principe de subvention est largement été mis en place par les pays du Nord. Et ça, c'est une protection très lourde. On aura peut-être l'occasion d'y revenir cette semaine ou la semaine prochaine. Et c'est une des raisons de l'échec considéré par les organisateurs, pour moi c'est un succès, de la dernière réunion de Cancun. Alors, l'affaire du libre-échange, c'est... ne sais pas si c'est un bon système ou un mauvais système. On peut imaginer que si il y avait une possibilité d'instaurer dans le monde un libre-échange, ce pourrait être un bon système. Un libre-échange, ça voudrait dire que les citoyens du Burkina Faso aient exactement les mêmes capacités d'accès, les mêmes bénéfices que les citoyens des États-Unis. On sait que ça n'est pas possible, ça n'est que d'une part ça n'a jamais existé, comme je viens de le dire, et d'autre part que ça n'est pas possible pour tout un tas de raisons. Les économistes les plus réputés sérieux, un des derniers en date sur cette question, dans la question de la réputation Stiglitz, qui était premier vice-président de la Banque mondiale, président du conseil économique du président états-unien Clinton, a eu un prix Nobel, de ce que l'on appelle le prix Nobel d'économie, par les travaux qu'il a fait sur ce qu'il appelle les asymétries du marché, et en particulier les asymétries de l'information. Ça veut dire que l'ensemble des tous les citoyens du monde, tous les consommateurs, puisqu'on parle de consommateurs en l'occurrence, n'ont absolument pas les mêmes capacités d'accès à ce marché. Donc le libre-échange n'est pas possible. La deuxième raison pour laquelle il n'est pas possible aujourd'hui, il y a plusieurs raisons, mais une deuxième raison, c'est que ce qui contribue à la production d'un bien ou d'un service, les économistes parlent de facteurs de production, n'existe plus de manière autonome dans aucun pays du monde. On va chercher un logiciel en Inde, un morceau de matière première dans tel autre endroit, etc. Donc, prétendre qu'il y aurait ce que Ricardo appelait les avantages comparatifs ne tient pas une seule seconde. Donc pour ces diverses raisons, il y a cette incapacité physique à faire en sorte qu'un éventuel libre-échange, qui pourrait éventuellement être un système intéressant, pour quantité de raisons, il n'a jamais existé et il ne peut pas exister.
Mais a priori, des institutions comme l'OMC prônent un libre-échange, c'est-à-dire aussi le fait que qu'il n'y ait plus du tout de barrière entre les pays pour les échanges.
Oui, bien sûr. L'OMC, qu'est-ce que c'est? Un certain nombre de gens dans les instances internationales disent l'Organisation mondiale du commerce, c'est un progrès considérable, puisque à l'inverse de ce qui se passe dans les institutions financières internationales, le Fonds monétaire et la Banque mondiale, qui là où chacun contribue et participe en matière de voix en fonction de précisément de sa contribution, à l'OMC, c'est un pays, une voix. Donc c'est a priori tout à fait fantastique. Sauf que pour quantité de raisons sur lesquelles on aura peut-être l'occasion de revenir aujourd'hui ou la semaine prochaine, encore une fois, un pays comme le Burkina Faso n'a évidemment ni les mêmes moyens ni les mêmes capacités d'intervention qu'un pays comme les États-Unis. Donc l'OMC avec sa règle un pays une voix est une fausse organisation démocratique. Il est bien évident que ce sont les pays du Nord, riches, qui ont la capacité d'intervention. Ou pour être plus précis, ce ne sont malheureusement pas ces pays, ce sont les firmes puissantes à l'intérieur de ces pays qui disposent de la capacité de faire en sorte que les règles des échanges puissent être organisées à leur profit, parce que l'intérêt du libre-échange, il est tout à fait vrai et réel. C'est vrai que le libre-échange est quelque chose de tout à fait intéressant pour favoriser, pour augmenter le profit des firmes multinationales. Comme on sait que chaque unité de capital a une tendance à rendre moins, eh bien, il faut, pour préserver globalement et en valeur absolue ce que chacune de ces unités rapporte, ou plutôt ce que le capital rapporte, eh bien, il convient de faire en sorte que on puisse aller chercher des ressources ailleurs. Il y a de nombreuses mine, si je puis dire. Une de ces mines, c'est, par exemple, sur le plan international, de détériorer ce que l'on appelle les termes de l'échange et de faire en sorte qu'on approvisionne ainsi les firmes multinationales. Je prends l'exemple du café. La Côte d'Ivoire, en 2004, vendra son café pratiquement quatre fois moins cher que ce qu'elle le vendait il y a 30 ans. Et il est bien évident qu'elle achète une quantité de produits qui ne valent pas quatre fois moins cher. Par contre, les firmes multinationales du Nord qui vont acheter, qui sont sur ce commerce du café, sur l'industrialisation des produits provenant du café, elles vont avoir une matière première, entre guillemets, qui vaudra quatre fois moins cher qu'il y a 30 ans, et donc qui va permettre de préserver globalement, même si par unité ça diminue, leur profit.
J'arrive pas très bien à comprendre finalement pourquoi les pays du Sud finalement réussissent pas à s'insérer dans le commerce international de façon plus positive, et en quoi les pays du Nord ont une capacité de nuisance, on pourrait dire, sur le commerce international.
Alors la difficulté des pays du Sud à s'insérer dans le commerce international, elle tient au déséquilibre monstrueux des puissances respectives des uns et des autres. Alors, on ne va pas féticher sur un critère comme le produit intérieur brut, mais quand même, le PIB mondial, c'est disons 31 000 milliards de dollars, et le PIB de l'ensemble de l'Afrique, ça doit représenter quelque chose comme 2% ou quelque chose comme ça, donc des chiffres tout à fait insignifiants. Il est bien même chose pour le commerce international. Les échanges, c'est dans les deux sens 13 000 milliards de dollars par an. L'Afrique subsaharienne doit représenter 0,5% ou quelque chose comme ça. Donc quand vous pesez, entre guillemets bien entendu, ces chiffres, quand vous avez ce type de rapport, il est bien évident que vous ne pouvez pas imposer des règles qui vous seraient plus favorables, mais que vous êtes obligé de vous couler dans celles que l'on vous impose.
Des sous et des hommes, et on est en compagnie de Jacques Ossard qui, comme il nous l'a dit tout à l'heure, a travaillé à la Banque mondiale et qui est économiste. Alors franchement, cette histoire de libre-échange, ça me laisse perplexe, parce que normalement, si j'ai bien compris, l'idée, ça serait de faire en sorte que tout puisse s'échanger partout dans le monde et tout le monde à égalité. En tous les cas, c'est la douce musique qu'on essaye de nous servir. Dans les faits, ça n'existe pas, parce qu'il y a encore des protections douanières ou des subventions, ce qui est une forme améliorée de la chose. Visiblement, on prône ce libre-échange, ça n'existe pas, de toute façon, ça ne peut pas exister réellement. Alors finalement, à quoi ça sert tout ça ? Enfin, pourquoi on nous sert cette pommade, j'allais dire ?
Cette sauce, parce que... comme vous le savez mieux que moi, on est dans un monde organisé par le capitalisme, par le libéralisme, par le néolibéralisme, qui vise à faire de la régulation exclusivement par le marché. Vous savez que nos théoriciens nous disent que si on laisse le marché parfaitement libre, eh bien, ce que les économistes appellent l'allocation des ressources à travers le monde sera parfaite et au meilleur bénéfice des 6 milliards de personnes. On sait bien, mais la vie courante, il n'y a pas besoin d'être économiste pour ça. La vie courante l'enseigne. Le marché, il fournit ceux qui sont capables d'avoir accès à ce marché, c'est-à-dire ceux qui peuvent payer. C'est la raison pour laquelle il paraît indispensable pour préserver l'intérêt des 6 milliards que j'évoquais, qu'il y ait une régulation, l'autre type de régulation, qui est la régulation par la puissance publique, c'est-à-dire par l'expression de l'intérêt par la voix des citoyens, qui disent on a besoin, par exemple en France, que chacun des citoyens vivant sur le territoire ait un même accès aux soins ou à l'école, où on pourrait prendre quantité d'exemples. si on laisse le marché faire, il est évident que cet accès égal pour tous ne sera pas réalisé. Donc, il y a des dispositions à prendre. Dès lors que l'on prend ce type de disposition, qui va imposer les prix, qui va interdire l'établissement d'un groupe privé sur tel secteur, comme ça a été le cas en matière de santé, publique tout au moins, etc., on va apporter ce que les économistes libéraux appellent des distorsions de marché. Et ces distorsions qui sont bien naturelles, puisque précisément elles sont des distorsions pour faire en sorte que tout le monde ait le même accès. Et comme tout le monde n'a malheureusement pas les mêmes revenus, il faut distordre le marché. Alors, imposer le libre-échange, c'est une manière... une des manières, des nombreuses manières que les libéraux ont trouvées pour faire en sorte que tout et partout puisse être régulé par le marché, de manière à permettre à ceux qui fournissent le marché, c'est-à-dire pour l'essentiel les entreprises privées, de permettre à ces entreprises privées d'avoir le marché le plus satisfaisant, d'avoir un accès à un chiffre d'affaires le plus satisfaisant et permettant évidemment un bénéfice qui soit à l'avenant. Peut-être aurons-nous l'occasion aujourd'hui ou la semaine prochaine de reparler des services. Les services, c'est quelque chose de tout à fait considérable. C'est moins facilement échangeable sur le libre marché, entre guillemets, qu'un produit. Aller échanger une consultation de médecin en allant en Inde, c'est pas tout à fait évident. Mais pourtant, ces services sont considérables. Il faut savoir que au sein de l'Union européenne, par exemple, c'est 70% de tout ce que veut régler l'accord général sur le commerce des services, la GCS, c'est 70% du produit intérieur européen. Donc c'est tout à fait tentant quand vous êtes propriétaire de capital, quand vous êtes capitaliste, quand vous êtes entrepreneur libéral, c'est tout à fait tentant d'obtenir des réglementations ou des déréglementations qui vous permettent d'avoir un accès à ce fabuleux marché, entre guillemets.
Mais là, vous parlez surtout des biens ou des services, en tous les cas, dans lesquels on pourrait voir une extension du marché. C'est-à-dire, par exemple, les services de la santé n'étaient pas encore touchés par les services marchands, par le marché, ils pourraient l'être. Mais quel est l'avantage du libre-échange pour des biens qui... Enfin, je sais pas, les verres en plastique à côté de moi ou ce genre de choses. Je vois pas quel est l'intérêt de vouloir effectivement produire tout partout.
Je crois que pour répondre à votre question, il faut toujours se remémorer le fait que quand on parle de libre-échange, ça n'est jamais le cas. Ce que l'OMC et les tenants de l'économie libérale, néolibérale veulent dire, c'est que les firmes qui ont pignon sur rue puissent produire là où elles ont envie de produire et puissent vendre sur l'ensemble de la planète ce qu'elles ont envie de produire. Pour reprendre votre exemple de gobelet en plastique, il est vraisemblable que comme il n'y a pas une technologie particulièrement avancée, mais c'est fait à partir de pétrole. On va importer du pétrole à un endroit particulier qui va produire la matière de base qui sera nécessaire. Et puis cette matière de base va être expédiée dans n'importe quel pays à main d'œuvre peu chère pour fabriquer le dit gobelet en plastique. Et alors, c'est parfaitement dommageable de plusieurs points de vue. Un de ces points de vue, c'est que les salariés qui vont effectivement faire en sorte de produire ce gobelet vont être payés à des salaires parfaitement détestables du point de vue de la dignité humaine et de la reproduction de la capacité physique et intellectuelle des travailleurs en question. Et deuxièmement, puisque c'est nous qui, pour l'essentiel, allons utiliser ce gobelet, il va falloir le transporter. Donc pour le transporter, il va falloir consommer de l'énergie, il va falloir polluer, il va falloir un certain nombre de choses comme ça. C'est un autre aspect qu'on n'a pas encore abordé aujourd'hui du caractère parfaitement détestable de ce que serait un libre échange, de ce qu'est la croissance mondiale des échanges, qui ne s'inscrivent pas encore une fois dans un libre échange, c'est son caractère proprement contre-productif par rapport à ce que on appelle assez souvent aujourd'hui un développement durable. Donc la question de ce libre-échange, qui serait parfaitement intéressant pour tout le monde, ne l'est pas, on le voit sur l'exemple des salaires, et ne l'est pas pour la planète, on le voit avec les conséquences catastrophiques que ça peut avoir.
Oui, mais moi j'entends aussi en même temps que c'est absolument génial, parce que ça permet d'avoir des prix bas, et que le consommateur que je suis est particulièrement contente de ça.
Alors, la question du prix bas, un prix, ça ne veut rien dire. Un prix, c'est la capacité d'un citoyen à pouvoir accéder à quelque chose. Mais ce prix, il peut le payer à partir des revenus qu'il va avoir. Donc, si vous avez un revenu de 100 et que vous avez besoin de dépenser 80 pour vivre correctement, vous êtes très largement bénéficiaire. Si vous avez un revenu de 100 mais qu'il vous faut 200 pour vivre à peu près correctement, vous êtes très largement bénéficiaire. Donc la question du prix est là encore une fausseté des libéraux pour nous entraîner sur cette affaire. La question du prix, la question fondamentale, c'est la question du revenu et la question de la rémunération du travail, de la rémunération de la capacité de vivre de l'ensemble des citoyens. C'est ça qui est la question fondamentale.
Qui justement peut être mise en cause par le fait que le libre-échange permettrait d'aller faire travailler moins cher des gens dans le tiers-monde notamment qui n'ont pas la protection sociale que nous avons par exemple.
Bien entendu, puisque dès lors que vous ne regardez pas à faire voyager tout un tas de choses, dès lors que les services peuvent être échangés de manière relativement facile, ça sera une pression supplémentaire pour à la baisse sur la rémunération et accessoirement, effectivement, sur les prix, mais encore une fois, on vient de voir que la question du prix est sans intérêt pour le bien-être des citoyens. C'est le pouvoir d'achat qui est intéressant. Or, celui-là, malheureusement, il baisse. On sait qu'il baisse au sud. On sait qu'il baisse aussi au nord pour une grande partie de la population. Il faut savoir que les écarts de revenus entre les populations du Sud et les populations du Nord et à l'intérieur des populations du Nord entre celles qui sont bénéficiaires de revenus élevés et les autres va croissant. C'est donc bien qu'il y a une détérioration du pouvoir d'achat au moins relative et souvent en valeur absolue. C'est le cas par exemple de l'Afrique subsaharienne qui a vu sur 30 ans son PIB, produit intérieur brut par habitant, qui est encore une fois bien contestable mais qui au moins a le mérite d'être égalitaire en termes de comparaison, a baissé sur 30 ans. C'est-à-dire que le produit, la rémunération de chaque habitant sur la planète, avec des sur la planète, la partie de la planète africaine subsaharienne, a baissé avec de surcroît des écarts considérables.
Bien, merci Jacques Cossard. Comme ça, je suis contente d'avoir appris que d'une part, mon salaire risque de baisser et qu'en plus de ça, mon pouvoir d'achat va baisser, tout va bien. On vous retrouve la semaine prochaine, ça sera sans doute toujours aussi déprimant. Et puis, je vais en profiter, j'ai peut-être encore 30 secondes, pour rappeler que le Alternative Économique sort des petits fascicules. Donc, celui-ci s'appelle par exemple Pratique. Ça parle des métiers de demain. Les secteurs qui vont embaucher, on commence à se poser la question, comment les métiers se transforment, idem. Enfin, c'est vraiment un journal, d'une part, qu'il faut suivre d'une façon courante, mais en plus de ça, qui fait des guides pratiques très très intéressants ou des fascicules divers qu'on ne peut que louer. Voilà, à la semaine prochaine.